Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire, cette semaine de Chut, on écoute la télé, Sage-Homme, le gros coup de cœur ciné de notre émission. Ça sort mercredi dans les salles, la réalisatrice Jennifer De Bolder, la co-scénariste Cécile Sélam et également Melvin Boomer sont nos invités dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé aujourd'hui avec Prométhée, Fantine Ardoin, l'héroïne, sera notre invitée avec le réalisateur Christophe Campos de la nouvelle création de TF1. On aura le plaisir de parler de Maman a disparu, également qui sera diffusée demain soir sur France 3. François Rambu le producteur ainsi que le compositeur de la musique François Stahl et Brigitte Aubry sont nos invités exceptionnels. Meurtre à Pont-Aven également à l'honneur aujourd'hui avec Alexandre Brasseur, Odile McDonald et Stéphane Capès, réalisateur en fin d'émission. Et en exclusivité podcast, eh bien, on va parler de Ouria aujourd'hui. Ouria, ça sort mercredi également dans les salles, le nouveau film de Mounia Medour, qui va être donc notre invité aujourd'hui, avec également Hilda Mirado Aouda et Nadia Cassi. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Sage Homme. Ça ne se dit pas comme ça, mais on va expliquer pourquoi justement avec toute l'équipe. Parce qu'on va parler du métier des sages-femmes, justement à travers le parcours de Léopold. Dans ce film, on a eu la chance de le voir en avant-première à Sarlat et à Royan sur des festivals. Ce film, il est incroyable. C'est d'une beauté rare. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film au cinéma mercredi. On a la chance aujourd'hui d'avoir Jennifer De Bolder qui est avec nous, la réalisatrice. Bonjour Jennifer.
Bonjour Alain.
Léopold, joué par Melvin Boomer qui est avec nous. Bonjour Melvin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez la chance de le voir aussi en novembre dernier dans Le Monde de Demain où tu jouais Joey Star brillamment. Mais là, t'as monté encore d'un cran. On va en parler dans un instant, Melvin. On a également Cécile Salem qui est avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui est co-scénariste du film. On va évoquer ce métier de sage-femme. Mais d'abord, Jennifer, où est venue l'idée de faire un film sur ce sujet, finalement?
Alors, en fait, avec Cécile, on voulait faire un film sur une problématique un peu inversée. C'est-à-dire, non pas une femme qui réussirait dans un monde, enfin, qui serait obligée de se battre dans un monde d'hommes, mais un jeune homme qui devrait se battre dans un monde de femmes. Et donc, on s'est dit, où est-ce que les femmes sont les patronnes? Eh ben, dans une maternité. Et donc, on a eu l'idée de ce jeune homme qui ratait médecine et qui, du coup, choisissait la filière sage-femme pour pouvoir repasser en médecine derrière et qui allait rencontrer Karine Viard et tout allait être bousculé et transformé dans sa vie.
Ça a bousculé toutes ses certitudes à la fois à cet étudiant. Il va faire une connaissance qui va changer un peu le cours de son existence. C'est ça qui t'a plu, Melvin, en premier, dans ce scénario, dans ce rôle?
Dans ce scénario, ce qui m'a réellement plu, c'est de pouvoir voir que malgré les échecs, on peut quand même trouver ce qui nous plaît et réussir dans ce qui nous plaît. C'est ça, moi, qui m'a réellement touché dans ce scénario, de voir Léopold qui, malgré son échec, il trouve quelque chose, un métier qui est formidable. Donc voilà.
Comment tu le définirais, toi, Léopold ?
C'est Monsieur Tout le Monde, en réalité. C'est le jeune lambda. C'est un jeune qui a un rêve et qui n'atteint pas forcément ce rêve-là, donc qui reste têtu au début et qui après prend en maturité au fil du temps.
Il y a des scènes d'accouchement, il y a des scènes voilà qui peuvent paraître des fois voilà crues, mais c'est la vie aussi que t'as voulu montrer Jennifer à travers ce film, et c'est ça qui le rend beau finalement aussi. Je n'ai jamais vu un film aussi réaliste sur un thème pareil.
Oui, on a voulu dès le départ qu'il y ait une véracité, qu'on soit plongé dans l'univers d'une maternité et que tout semble vrai. Et que tout soit vrai, donc on s'est beaucoup documenté. On a fait des stages en maternité, on a interviewé des sages-femmes hommes, des sages-femmes femmes, des obstétriciens, des aides-soignants. Enfin, on a vraiment fait un énorme travail en amont pour que ça paraisse vrai et pour que tout soit vrai à l'intérieur de ça.
Alors évidemment, ce qui doit être compliqué, c'est que aujourd'hui, peut-être que vous le savez pas, vous auditeurs, mais aujourd'hui, il est impossible normalement de tourner avec des enfants de moins de 3 mois. Aujourd'hui, ça c'est une loi, c'est la règle aussi en France, c'est qu'on ne peut pas tourner avec des enfants de moins de 3 mois. Alors comment on fait ? On essaie de trouver des parades, on s'organise de quelle façon ?
Alors on a décidé de rester quand même tourner en France parce qu'on s'est posé la question. Parce que dans certains pays, on peut tourner avec des enfants plus petits, mais nous, on voulait rester en France. Donc on a décidé de mélanger les techniques. Donc on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Cinébébé, qui crée des bébés en silicone qui ont l'air plus vrais que vrais. Et aussi avec une autre société qui s'appelle Atelier 69, qui a un bébé en animatronique, dont on s'est un petit peu servi aussi. Donc un animatronique, c'est un petit robot. Donc un bébé qui respire et qui fait des mouvements. On a travaillé avec des vrais bébés, c'est-à-dire des bébés de 3 mois mais qui sont petits, c'est-à-dire qui sont nés soit petits, soit un peu prématurés, tout ça. Donc voilà. Et donc on a mélangé un peu tout ça pour qu'on voit jamais qu'on n'est pas avec des vrais nourrissons ou des vrais accouchements. Mais c'est vrai qu'on a tout, on a été obligé de tout recréer, même la maternité.
Alors tous les sujets sont passés, parce que c'est vrai que c'est beau la maternité, le métier de sage-femme peut paraître absolument idyllique, parce que c'est ce qui est dit dans le film, d'ailleurs c'est là qu'on vit le plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, mais malgré tout il y a quand même des mauvaises, et vous n'êtes pas passé justement à travers ces mauvaises nouvelles, vous avez exploré un peu toutes les facettes du métier, et ça c'est aussi à la magie de l'écriture. Comment vous êtes répartis les tâches toutes les deux, parce que vous avez écrit un peu ce scénario à 4 mains finalement avec Cécile?
Il n'y a pas de répartition de tâches, il y a beaucoup d'échanges entre nous. J'ai l'impression qu'on l'a construit... Bon, au début, c'est vrai qu'on a fait une enquête, un vrai temps d'enquête pour rencontrer ces femmes, voir des accouchements et tout ça. Et
une immersion, en fait.
Ouais. Non, c'est vrai que c'était beaucoup de... Je ne sais plus combien de mois c'était, mais on s'est vraiment intéressé à ça. Et ensuite, on a construit ce récit et j'ai l'impression que ça a été construit par Strat, en fait. On savait qu'on avait des moments clés ou des choses qu'on avait vues où on se disait « Ah non, mais il faut absolument que ça soit vu ou qu'on les partage ou en tout cas que ça rentre dans l'histoire de ces personnages. »
Je crois qu'on avait beaucoup, beaucoup de matériel au départ. Ouais. C'est-à-dire qu'on a passé aussi un temps à écrémer après. Et puis c'est vrai que c'est un film, on a avancé par touches. Il y a eu des chantiers de ça, des chantiers de ça. C'est vrai qu'on est parti à la base sur la maternité, mais une fois qu'on maîtrisait à peu près l'univers de la maternité, des sages-femmes, qu'on avait toutes les anecdotes, on est parti sur la famille. Enfin, on a vraiment travaillé par endroit, quoi, avant que tout prenne forme.
Alors ce jeune Léopold auquel effectivement tous les jeunes peuvent s'identifier aujourd'hui est un exemple de parcours, je trouve, pour tous les jeunes qui peuvent aller voir ce film, parce que Léopold Melvin que tu incarnes, effectivement c'est cet étudiant qui à un moment donné peut rater un examen pour plusieurs raisons, hein, et là il le dit à un moment donné à cause d'obligations familiales, à cause de choses où il n'a pas peut-être assez le temps de faire les choses et de réviser comme il le souhaiterait, et c'est un rebondissement en fait en quelque sorte, et c'est une vocation qu'il est en train de se découvrir dans un métier. Aujourd'hui, les femmes sont omniprésentes.
Oui, c'est comme il le dit. Il le voit comme un échec au début, donc un échec, ça fait jamais plaisir. Et puis lui, qui vit qu'avec son père et ses frères, et il a pas de sœur, et il a pas de mère, donc il arrive dans un milieu où il connaît rien en réalité à la femme. Tout au long de cette formation, de cette étape, de ce processus-là, il va énormément apprendre et se découvrir lui. En tant qu'homme.
Et le personnage de Karine va t'en apprendre aussi beaucoup. On va y revenir dans un instant. On va écouter la bande-annonce et tu vas nous parler de ta rencontre avec Karine Viard justement. Mais d'abord, Sage Homme, c'est mercredi au cinéma. C'est le film à ne pas rater cette semaine. On écoute.
Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes.
C'est qui Meyer ?
Sage-femme, toi.
J'ai dit à tout le monde que j'avais une médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord?
Ils vont t'envoyer au bled, gros.
Tenez.
Non, non, mais je vais pas mettre ça, donnez-moi la bleue.
Premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon.
Yo, comment ça se passe ce début d'année, là?
Nonchalance. Et quand on rentre quelque part, on se présente.
Manque de sérieux en classe. Aucun engagement.
Et après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière.
Putain!
Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-vous au travail.
Allez, de retour pour notre spécial Sage Homme. On est avec Jennifer De Volder, avec Cécile Salem et Melvin également qui est avec nous, qui va nous parler de sa rencontre justement, Melvin Boomer, avec Karine Viard. Ça a dû être incroyable de se retrouver face à elle.
Ouais, c'est un monument, hein. C'est une très très grande actrice. Donc la pression était présente dès le début, dès les lectures, parce que je savais que s'il n'y avait pas cette alchimie entre elle et moi... le film ne serait
pas donné forcément voilà. Ce qu'il donne là. Oui.
Et surtout, j'aurais pas été pris. Enfin, on va être sincère. Donc, mais au final, voilà, il y a eu cette alchimie entre elle et moi qui s'est faite tout de suite. Il y a eu ce rôle de tutrice qu'elle a eu dès le départ avec moi. Elle m'a énormément appris. Donc, c'est ça. Tout comme Léopold a appris dans le film, moi, Melvin Boomer, j'ai appris dans la vie en fait. Donc. Et elle m'a permis d'apprendre à être un meilleur comédien et aussi sûrement une meilleure personne.
Alors, parmi les fans de Je te promets, peut-être que certains reconnaîtront Mathilde Abdelkader qui joue aussi le rôle d'une jeune étudiante dans le film. Mais il y a tout un casting assez incroyable, Jennifer, que tu as réussi à réunir.
Ben, Mathilde, je l'adore. Vraiment, c'est vraiment un talent, un très grand talent. Il y a aussi Juliette Petiot, il y a Steve Chencheu, Bruce Dombolo, Tracy Gotoas, Jean-Faël Promeneur, le père de Melvin qui joue dedans, bien sûr. Il y a aussi plein de vrais soignants qui jouent dedans. Donc c'est un peu un mélange entre des acteurs et des vrais professionnels de la santé.
Alors tu as dû certainement, parce que quand on connaît l'urgence qu'il peut y avoir en maternité, il ne s'agit pas que quand une femme vient accoucher, vous dites attends, il y a une équipe de tournage, il y a deux scènes qui sont en train de se tourner, c'est pas possible, pour l'instant il faut revenir dans une heure. Donc comment on fait pour trouver des stratagèmes justement pour tourner des scènes de maternité, peut-être dans un autre endroit ou ailleurs que dans une vraie maternité finalement, parce que ça doit être hyper compliqué, ils sont toujours dans une urgence absolue.
Bah eux ils sont toujours dans une urgence absolue et nous on est très encombrants. Donc du coup on a recréé une maternité dans une faculté totalement et on a aussi tourné certaines scènes par exemple d'extérieur ou de hall ou de couloir à l'hôpital de Vendeuvre dans un hôpital qui est assez connu parce que c'est une sorte de tour qui va être bientôt détruite. Donc on aura immortalisé cet endroit.
Alors je crois qu'au niveau scénario, ce qui vous intéresse avant tout, parce que c'est pas ton premier film Jennifer, mais ce qui vous intéresse avant tout, c'est le parcours humain. Et ce parcours humain, on le ressent mais tellement bien à travers ce parcours de Léopold dans le film. Et justement, c'est ça qui vous intéresse quand vous écrivez, je crois, toutes les deux, c'est justement de s'intéresser à un parcours particulier. Et là, en l'occurrence, celui de Léopold.
Bah merci déjà. En fait, c'est vrai que ce qui nous intéresse, enfin, on part toujours de l'humain. De toute façon, après les films, ça raconte ça. Et Cécile et moi, on est vraiment fan de récits initiatiques. On est fan de Stand By Me, de À la rencontre de Forrester, de Will Hunting, de Billy Elliot. Enfin, tous ces films-là, c'est des films qui moi m'ont vraiment beaucoup marqué, que je revois tout le temps. Il y a quelque chose dans le passage à l'âge adulte qui nous plaît énormément, je crois. Et donc, on était super contente de pouvoir le faire dans le Sage Homme. Enfin, ça s'est venu assez naturellement.
Il y a très peu d'hommes dans ce métier. On a eu l'occasion de vivre une expérience hors du commun avec un homme qui exerce ce métier justement dans notre région. On sent vraiment que les hommes qui s'engagent dans cette filière, en tout cas, c'est une vocation. C'est quelque chose d'assez fort. Est-ce que toi, Melvin, t'as eu l'occasion de rencontrer des hommes qui font ce métier ?
Oui, bon, on a rencontré une seule personne qui faisait ce métier, qui avait le rôle d'un pompier dans le film. Et donc moi, en parlant avec la figuration, je viens parler à ce monsieur-là qui me dit que lui aussi est sage-femme. Donc c'était vachement intéressant de pouvoir communiquer avec lui parce que, comme vous avez dit, il y a très très peu d'hommes dans ce milieu-là. Et je pense que les hommes ne se sentent pas légitimes d'être dans ce milieu-là alors que, en réalité...
Pourquoi pas ?
Voilà, pourquoi pas, exactement.
Exactement, comme des femmes ne se sentent pas légitimes dans certains métiers, elles le sont tout à fait. Bon, question pour toi, Melvin. Je sais qu'elles sont à côté, toutes les deux, mais ouais, elle est comment, Jennifer, en tant que réalisatrice ? est-ce qu'elle est ordonnée, est-ce qu'elle laisse quelques petits moments de respiration pour alors je vais pas dire déconner forcément, mais voilà, pour avoir quelques fous rires, laisser quelques fous rires se faire aussi sur le plateau.
Déjà, ma réponse, Jennifer, c'est une maman. Voilà. Ça a été une maman pendant ce tournage-là et c'est absolument ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que c'est très dur de casser cette carapace que j'ai personnellement, de pouvoir réussir à pleurer sincèrement devant une caméra. Et si le réalisateur ou la réalisatrice qui est à côté, pour ma part, n'est pas aux petits soins, eh ben j'aurais jamais su casser cette carapace. Et Jennifer, sur ce tournage-là, je l'ai vraiment vue comme ma deuxième maman.
Parce qu'il y a une scène où tu pleures qui est très forte dans le film. On n'ira pas dire dans quelles conditions ni de quelle façon, mais voilà, on vous conseille d'aller voir. Et là, effectivement, la carapace se fend et on comprend, parce que même nous, en tant que téléspectateurs, on est complètement submergé aussi par cette émotion que tu vis, en tout cas que ton personnage vit dans le film.
Bah, c'est génial, c'était le but.
Alors pour terminer, en beauté, parce que non seulement c'est un film lumineux sur un métier aujourd'hui, on le disait, essentiellement de femmes, mais avec ce parcours de Léopold, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelques hommes qui l'incarnent aussi en France. Et puis alors, quelle magie de terminer ce film avec une patate, avec David Guetta. Mais c'est génial, c'est la surprise de fin de film qui te met une patate à la fin du film, assez incroyable.
Oui, donc il y a en effet Léopold qui danse sur Titanium de David Guetta, chanté par Sia. Et c'est vrai que c'est un titre, mais c'est un titre à la fois très émotionnel, je trouve, et à la fois c'est un titre de boîte de nuit, donc ça envoie une petite patate pour réveiller le spectateur.
Mais qui termine justement l'émotion du film de façon merveilleuse, quoi.
Exactement, c'est Léopold relâche tout après avoir tant vécu. Tant subi aussi, parce que dans le film, il subit quand même beaucoup de choses. Il est de tous les plans et il porte quand même, et je dois dire bravo à Melvin, parce qu'il est jeune et c'est son premier film de cinéma. Il porte quand même le film sur ses épaules, aidé par Karine, bien sûr, mais c'est quand même lui qui est de tous les plans. Donc voilà, je trouve que c'est très émouvant de le voir à la fin se lâcher complètement et laisser une impression tellement de bonheur intérieur. Et de plénitude.
Et que vous nous faites partager du coup. Et puis pour terminer cette interview, évidemment, on pouvait pas faire autrement que de terminer justement avec Titanium. Voilà, merci à tous en tout cas. Sajom, c'est mercredi au cinéma, c'est le film à ne pas rater en tout cas en ce mois de mars, en ce 15 mars. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Voilà.
Merci.
Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes.
Vous sentez beaucoup votre bébé bouger ?
Oui, il bouge. Beaucoup.
Je suis grosse.
Non, vous êtes pas grosse, vous êtes enceinte.
Bon bah, il a très bien appris ça le sang, non ?
Il est médecin quand même, hein ? Il est pas encore. Qu'est-ce que tu fais, Rose ? T'es infirmière ?
Tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme ? C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être. C'est à toi de pousser ton cri.
Allez, bougez pas, la suite de Chut, on écoute la télé, c'est dans un instant, alors à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Ci riamisa di cari, poi ci dammi si dati, vivere smutto se batti.
J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré, amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air. Du côté du Cap Vert, du côté du Cap Rond, à écouter la mer, à écouter la monde. Y'a des voix là-bas qui voyagent, chérie. Mets de l'amour dans tes bagages.
Bon, créons un monde paradis. J'ai des amis à des carines. Moi, j'ai une âme simplicité. Vivez les mondes sans maladie. Bon, créons un monde paradis. J'ai des amis à des carines. Moi, j'ai une âme simplicité. Vivez les mondes sans maladie.
Oh, 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 oh,
à Césaria sous le soleil, chérie, au petit pays, aux couleurs de Brasa, Brasero, Brasil, les fados, les playas, un peu Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage.
C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Ouria. On a le grand plaisir de recevoir pour la deuxième fois dans notre émission la réalisatrice Mounia Medour qui est avec nous. Bonjour Mounia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous après avoir signé un carton avec Papicha qui a eu des prix, qui a été primé au festival notamment d'Angoulême. C'est ce film que vous avez présenté au dernier festival, c'était au mois d'août dernier, qui s'appelle Ouria, l'histoire d'une transformation, d'un parcours de résilience incroyable, interprété avec brio par Lina Koudry. Comment est venue cette idée déjà ?
Alors, c'était une envie de continuer à creuser la mémoire et la richesse algérienne, de la société algérienne. Donc, j'avais envie de raconter l'histoire de cette jeune danseuse qui va finalement, à la suite d'un accident, se découvrir à elle-même et trouver le moyen de transcender finalement cet handicap, cette blessure, pour être encore plus forte et encore plus belle et plus libre.
Alors, ce film marque effectivement, on est sur un tournage en Algérie. Je me souviens un peu qu'à l'époque de Papicha, ça avait été difficile des fois de tourner là-bas. Là, est-ce qu'il y a eu des difficultés justement de rencontrer sur ce tournage aussi ?
Oui, ça a été assez complexe à cause du Covid, puisque vous savez, le pays a fermé à plusieurs reprises. Il y avait très très peu d'avions, de vols, donc les situations sanitaires étaient très compliquées. Mais on s'en est plutôt bien sorti et on est super content de continuer encore à montrer des images essentiellement de nos comédiennes algériennes avec une richesse. C'est des femmes qui sont énormément, qui ont énormément de d'énergie et puis lumineuses. Elles sont assez époustouflantes dans leur énergie, leur créativité et donc elles existent dans cette Algérie à travers aussi leurs personnages, mais aussi à travers cette langue qui est l'algérois.
Alors même si c'est dramatique ce qui se passe, hein, évidemment dans ce film, c'est aussi, je disais, un parcours de résilience, d'espoir à travers ce personnage d'Ouria. Mais est-ce qu'on peut planter le décor déjà un petit peu ensemble, comment ça commence l'histoire ?
Oui, on suit le parcours d'une jeune danseuse qui rêve de devenir une grande danseuse à l'Opéra d'Alger et qui, à la suite d'un accident, va devoir repenser sa vie. Et elle va trouver une façon différente de s'exprimer à travers une danse, mais une danse très différente. C'est une danse contemporaine où le corps et l'expression est libéré de toute contrainte. Et au travers de son parcours de convalescence, elle va rencontrer un groupe de femmes. Et avec ces femmes, elles vont construire un projet commun, fédérateur, d'une chorégraphie ensemble. Et c'est ce qui va leur donner un sens à leur vie et puis les rendre encore plus belles et plus lumineuses.
Qui va les aider à surmonter le handicap, puisque c'est aussi le thème central du film.
Oui, tout à fait. C'est la différence, c'est-à-dire comment accepter cette différence et vivre avec. Vivre avec, je pense que c'est assez universel. On est tous dans la vie confrontés à des blessures physiques ou morales ou intellectuelles. Et l'idée, c'est comment repartir de ces petites faiblesses, de ces petits accidents de la vie pour continuer à avoir de l'espoir et aller de l'avant, tout à fait, et avoir des projets artistiques ou culturel ou de vie même qui nous aide à être heureux et à nous lever le matin en se disant voilà, j'ai des choses à dire dans cette société et dans cette vie.
Ouais, c'est vrai que pour le coup c'est un film plein d'espoir. Votre Ouria, c'était une évidence, Lina Koudry?
Oui, par rapport à Papicha, on avait déjà travaillé sur la mémoire, la société algérienne et l'histoire de cette décennie noire malheureusement qui nous a marqué, et nous avons donc poursuivi ce travail avec Lina sur Ouria. C'était effectivement une évidence puisque moi j'aime beaucoup en fait me rapprocher au plus de la véracité. Je viens du documentaire, donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui une comédienne qui connaisse cette société, cette langue et qui connaissent les codes aussi de cette société. Et bien évidemment, Lina est une comédienne talentueuse, une grande bosseuse, une perfectionniste comme moi. Et donc, elle a ce souci du détail permanent comme moi. Et on a énormément travaillé sur ce film, puisqu'on touche à l'handicap, on touche à la langue des signes, on touche à la chorégraphie. Donc, il y avait énormément de recherches, de travail, de références, d'inspiration. Donc, c'était assez stimulant de travailler autour de cette chorégraphie et de ce travail.
Dernière question, en tant que réalisatrice, est-ce que vos comédiennes ont sublimé ce que vous attendiez? Et quand vous avez découvert sur grand écran, même si vous avez monté le film au fur et à mesure, quand on le découvre sur un grand écran, l'émotion est encore différente, on est encore plus immergé dedans. Qu'est-ce qu'on ressent à la première projection quand c'est comme ça?
Ah bah, une grande joie, une grande fierté. Et donc oui, quand on découvre le film sur grand écran avec une salle pleine après un Covid où nous avons tous été séparés de ce contact, on va dire, physique avec les gens, c'est une joie absolue. Et d'ailleurs on fait aussi du cinéma pour ça. En tout cas moi je fais pour transmettre voilà des émotions, pour être un tout petit peu bousculé dans son quotidien. Et là en l'occurrence c'est un peu les montagnes russes, je pense, avec ce film en termes d'émotions. Et c'est ce que j'aime transmettre au public, des émotions fortes, un vécu, et puis ressortir finalement d'une projection comme ça en se disant voilà, c'est difficile, mais ok, qu'est-ce que je fais pour réussir, pour aller de l'avant. Et
c'est un film qui est plein d'espoir, ça c'est sûr, c'est un film qui est plein d'espoir, c'est indéniable. Ouria, on va le découvrir donc très vite au cinéma puisqu'il sort. On va accueillir dans quelques instants Hilda Amira Douaouda et Nadia Cassie, qui vont venir nous parler également de leur rôle. Et juste avant de les accueillir, eh bien, on va se quitter avec la bande-annonce. Mounia, en tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et au prochain film, du coup.
Merci.
Karima, habsi les sphinx au selecto. Tachli kershuk et serre les fesses.
Oui, Samil, c'est un train pour Poutine, ok?
Premier combat, Poutine versus Shakira! Poutine vainqueur!
Mais tu coules si, hein?
Rajeli Drami.
C'est un jeu, t'as perdu!
Vous avez fait un grave accident, Houria.
Houria, Hadali. Kouli Hadja.
Il est muette.
Pourquoi vous avez relâché Ali?
Madame, la justice, elle a fait son travail.
C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. Ouqsim billah, ana n'aoud ndakhlou l'habs.
C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence.
Al khair.
Je m'en fous.
Quand tu as appris leur quelques mouvements.
Allez, on continue à parler de notre coup de cœur ciné cette semaine qui est consacré au film Ouria. Après Mounia Medour, eh bien, nous avons la chance d'avoir deux des actrices du film, Hilda Amira Douaouda, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qu'on retrouve après avoir parlé de Papicha il y a quelques années. Eh bien, on se retrouve et puis on a Nadia Cassi qui est avec nous également aujourd'hui. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Alors après avoir planté un peu l'histoire justement avec Mounia de Ouria, on va présenter un petit peu vos rôles à toutes les deux dans le film. On commence par Nadia.
Ça se passe dans un centre de rééducation. C'est une femme qui a perdu ses enfants, mais qui, pour survivre à ce gros traumatisme, a tendance un peu à oublier qu'elle les a perdus. Elle a perdu ses enfants pendant une attaque terroriste et dans un bus. Et elle essaye d'occulter ce trauma en simplement faisant comme s'ils étaient encore là. Et voilà quoi.
Handicap aussi à la suite de cet accident. On continue avec toi, Hilda.
Bonjour. Alors moi, je joue le rôle de Sonia, qui est la meilleure amie de Ouria.
Interprétée par Lina Koudry, on le dit en passage.
Lina Koudry, oui. D'ailleurs, c'est notre troisième film ensemble. Et Sonia, c'est une personne très joyeuse, c'est une aventurière, elle est fan du conte de Simbad le marin. D'ailleurs, elle ne cesse de l'évoquer à chaque fois que Ouria baisse les bras. Elle lui donne des exemples, regarde Simbad, il ne lâche jamais et tout. Et elle rêve de partir pour découvrir d'autres horizons.
Il faut dire que même si c'est une histoire dramatique, c'est avant tout aussi, Ouria, l'histoire d'une reconstruction. C'est une histoire aussi d'espoir. Ce film, comme elle avait été un peu Papicha à l'époque, hein, on reconnaît bien la patte de Mounia, pour le coup, sur le film. Mais il est vrai que c'est avant tout l'histoire d'une reconstruction. Qu'est-ce qui vous a plu à toutes les deux, déjà, quand vous avez lu le scénario? Vous vous êtes dit quoi? Nadia.
C'est difficile de retrouver les sensations à la découverte du scénario. C'est un mélange d'atmosphère en Algérie. C'est aussi une histoire de reconstruction dans le temps et dans l'histoire chronologiquement. Ouria arrive après Papicha, donc 20 ans après. Et c'est aussi la reconstruction de ce pays. Que sont devenus les enfants des années 90? Aujourd'hui, ils sont adultes. Ils ont un parcours de vie avec des choix qui sont les leurs, et quand ils sont artistes, parce que là en l'occurrence c'est l'histoire de femmes artistes, donc quand elles sont artistes, qu'est-ce qu'elles font de leur art dans un pays qui est assez cloisonné, qui est en reconstruction? Il y a une forme de désorganisation, mais en même temps des pulsions de vie très fortes, d'envie, de désir, de rêve qui renaissent des cendres du terrorisme, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors oui, ça peut être difficile, mais il y a toujours la possibilité de rêver jusqu'au jour où le rêve se brise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on nous brise nos rêves une fois, deux fois, trois fois, est-ce qu'on a les ressorts pour rebondir et pour reconstruire encore à partir de ces dégâts et à partir de ces débris de vie?
C'est ce qui vous a bouleversé en premier quand vous avez lu le scénario?
Oui, c'est cette déconstruction, reconstruction. C'est comment renaître à partir de choses. Voilà, le monde est violent. On est maintenant dans une époque où avant on pouvait faire du déni de ça, mais maintenant ça saute aux yeux. Le monde est violent. C'est pas propre à cette partie du monde.
Hilda, qu'est-ce qui t'a plu toi en premier dans le scénario?
Alors, beaucoup de choses. Déjà, comme le dit Mounia, c'est un peu le bébé de Papicha, de Samira dans le film de Papicha, ce film. C'est le fait de savoir, enfin de lire que l'Algérien ne lâche jamais, c'est ce qui m'a plu le plus.
Les Algériens ne lâchent rien, et c'est vrai que c'est... On a vu pas mal de films un peu sur le sujet, justement, dans les festivals l'année dernière, et il est vrai que dans cette Algérie, ça devient compliqué. Quelle a été la scène la plus marquante pour vous deux?
C'est le moment où Sonia part, quand elle prend le Zodiac et... Et là, je pense que c'est la première fois où je me suis vraiment mise à la place des Haraga. Il faisait super froid, je m'en souviens, il faisait super froid. Et donc, on allait vraiment vers le large. Et je me disais, ils font vraiment ça. S'ils font ça, c'est que...
Il y a une raison.
Ils ont besoin d'espoir. C'est soit ça, soit la mort. Et aussi, en fait, s'ils font ça, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais ils n'aiment pas ce qu'on a fait de ce pays, de ce beau pays.
Nadia?
La scène la plus marquante, ça, c'est certainement la scène où elle décide de commencer à vivre. elle est arrivée à un point où soit elle continue dans sa dépression et soit c'est la fin, soit elle fait le deuil de ses enfants par un acte fort.
On va découvrir dans le film.
Qu'on va découvrir dans le film. Et voilà, donc la scène était très compliquée à filmer, très compliquée, parce qu'on était dans de la vase, que nous seuls sentions, il y avait une pluie artificielle sur laquelle s'est ajoutée une véritable pluie, donc ça on s'y attendait pas du tout, il commençait à faire nuit, on a dû la tourner en une fois, et voilà, donc techniquement c'était vraiment très compliqué à gérer, mais c'était intense.
Une belle scène. En tout cas, moi, je vous invite à découvrir Ouria au cinéma, dans tous les bons cinémas, en tout cas de la région. Vous pourrez découvrir ce nouveau film après Papicha de Mounia Medour, auquel eh bien nous sommes à ses côtés à nouveau. Merci beaucoup, Nadia Cassie et Hilda Amira Douaouda, d'avoir été avec nous. Et je vous dis à très bientôt.
À bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé va s'intéresser à Maman est disparue, le téléfilm qui va être diffusé cette semaine sur France 3. On va y voir l'histoire de ces deux sœurs interprétées par Claire Kame et Claire Borotra. Et on va justement recevoir toute une partie de l'équipe aujourd'hui pour nous en parler. Le producteur, pour commencer, François Aramburu. Bonjour François, merci d'être avec nous.
Bonjour, c'est un plaisir.
Merci François Stahl d'être avec nous. On va mettre aussi en lumière la musique qui est hyper importante justement dans le film. On va y revenir aussi. Bonjour François et merci d'être avec nous.
Eh ben bonjour, de même, grand plaisir d'être là.
Et puis une des comédiennes qui joue dans le film le rôle de Mathilde, justement Brigitte Aubry, qui est en plus une chanteuse donc, de notre belle région. Alors justement Brigitte, merci d'être avec nous également.
Ah non mais moi c'est toujours un plaisir de vous revoir.
Merci beaucoup Brigitte. Alors, Maman a disparu, c'est l'histoire un peu de deux sœurs que tout oppose. Je crois, François, on peut le dire comme ça. Hein.
C'est deux sœurs qui vont se retrouver après des histoires familiales, comme il y a dans un bon nombre de familles, qui vont se retrouver autour de la disparition de leur mère, qui part et on ne sait pas où elle est. Et ces deux sœurs qui étaient en conflit, qui ont une éducation presque différente, vont se retrouver autour et vont vouloir chercher leur mère. Et parallèlement, évidemment, on recherche des gendarmes, puisqu'il y a une autre enquête policière qui est parallèle à cette histoire, qui peut-être...
A un lien. Ces deux sœurs, c'est vraiment un couteau tiré. Une assez proche de sa mère, l'autre pas du tout. Les ponts sont même coupés, on peut dire ça comme ça. Hein.
Oui, c'est vrai, les ponts sont coupés. En fait, elles n'ont pas eu le même vécu. Et une des sœurs est partie étudier à Bordeaux. Et pendant qu'elle est partie étudier à Bordeaux, il y a eu des événements familiaux qui ont complètement échappé à cette sœur partie. C'est ça qui les différencie et qui les a séparés, en fait.
Casting vraiment 4 étoiles hein, dans ce film. Jugez plutôt Nicole Calfon. Extraordinaire toujours, Jean-Michel Noiret, Lou Denier Lyon, qu'on adore aussi, Yann Sundberg, Claire Kame, Claire Borotra. C'est dingue. Justement Brigitte, de partager l'affiche avec tous ces comédiens, tous ensemble.
C'était un vrai bonheur pour moi parce qu'il y en a certains que je connaissais. Jean-Michel Noiret, je le connaissais bien, on avait déjà travaillé ensemble. Les deux héroïnes, j'avais très envie de les rencontrer, donc je suis ravie d'avoir partagé cette belle aventure avec elles.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Mathilde, Brigitte ?
Mathilde, c'est comme si c'était le pilier de cette famille. C'est quelqu'un qui est là depuis toujours. C'est l'amour inconditionnel pour sa sœur, qui donc a disparu. Donc c'est beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. C'est un grand attachement à la famille. C'est un grand attachement à ses deux nièces, qu'elle adore profondément, par-dessus tout. Elle aime beaucoup son mari aussi, bon, évidemment, qui est interprété magistralement par Jean-Michel Noiret. Voilà, c'est le pilier. Alors à partir du moment où il y a fêlure, où il y a problème, je ne peux pas en dire plus parce qu'elle est quand même extrêmement liée à cette souffrance.
Et à cette famille.
Et à cette famille surtout, voilà.
Brigitte, on va y revenir aussi dans quelques instants sur la partie tournage aussi, mais on va parler de la musique parce qu'on aime bien nous, dans notre émission, mettre souvent aussi en avant la musique. La musique... Et là, prépondérante aussi dans ce film, est très importante. Nous faire sentir des émotions particulières, nous faire sentir les tensions quand il y a besoin qu'on ressente de la tension. Et vraiment, ces genres de films-là, que si on voit sans musique, on n'aura pas du tout le même ressenti qu'avec. Et ça, c'est vraiment magique, moi, je trouve, à chaque fois.
Ben, oui, c'est un peu la raison d'être de la musique, qui est un travail d'auteur, hein, je le rappelle. C'est le troisième auteur du film. Donc, ça veut dire que la musique... elle a un rôle en dehors du rôle d'être là, d'être présente, de aussi raconter des choses qui ne sont pas dans l'image, de l'ordre de l'inconscient, de l'inconscient des personnages, même de l'inconscient du film d'une certaine manière. La musique est un personnage du film. Et alors dans ce film-là, ce qui avait vraiment amusant à faire, c'est un film de double genre. Moi, j'adore faire les films de genre. Je trouve ça, pour la musique, c'est super. Même, on me fait signe, même triple genre. Alors le troisième, je ne sais pas, mais il me le dira. Alors moi, les deux genres que j'ai identifiés, en tout cas sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est le côté enquête, un peu thriller, parce qu'il se passe une enquête, ça. Et en parallèle, une histoire nostalgique, romantique, d'amour familial, qui sont quand même deux choses qui, a priori, ne se marient pas forcément très facilement ensemble. Et c'était très intéressant pour la musique d'arriver à marier les deux, d'arriver à faire des thèmes qui passent de l'un à l'autre. C'était vraiment très, très sympa.
C'est ce qui m'a plu d'ailleurs quand j'ai reçu le scénario, le synopsis de Mathieu Savignac qui a écrit le projet. Ça m'a beaucoup plu d'avoir cette structure très adroite sur le mélange des genres. Et on a même un peu de comédie, on peut dire, hein, légèrement de comédie. C'était très astucieux de la part de Mathieu de mélanger ces genres-là. Et j'ai adoré. Et en plus, ça amène tellement à l'émotion que voilà. J'étais, en fait, quand j'ai envoyé le projet à France 3, je me disais, à chaque fois, peut-être qu'un producteur envoie un projet, on se dit, bon, s'ils le prennent pas, j'arrête le métier. Enfin, on peut dire des choses comme ça. Hein, tout est un peu excessif. Et en fait, on était complètement raccord et ils ont ressenti la même chose, la même évidence sur l'histoire.
Moi, ce que j'ai aimé par-dessus tout, évidemment aussi, c'est de retrouver ce duo qui nous a fait tant vibrer, tant d'été, pour la première fois ensemble. Claire Kem, Claire Borotras ont tellement illuminé nos étés dans les sagas d'été que là, c'est la première fois qu'on les fait tourner ensemble, quoi. C'est dingue.
Absolument, c'est la première fois qu'elles sont ensemble. Moi, j'avais parlé à Claire Borotras il y a quelques années parce qu'en fait, on a quelque chose en commun. On a le Pays Basque en commun. Claire Kem, Claire Borotras et moi, on est un peu des habitants et des gens de cœur qui ont un rapport fort avec le Pays Basque. Et j'avais dit à Claire Borotras, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais il y a 2 ou 3 ans, hein. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est illuminé quand j'ai lu le scénario. J'ai dit, mais il faut que je leur propose. Et elles ont toutes les deux accepté. Et elles se sont impliquées avec François Basset. On a énormément travaillé avec elles sur les personnages. Mais on a énormément travaillé sur le scénario afin de rendre les choses très crédibles. Elles se sont impliquées, investies, comme tous les acteurs du film d'ailleurs. Ces deux personnages principaux étaient primordiaux et d'avoir cette complicité qu'elles ont dans la vie. C'est formidable de travailler avec des très bonnes actrices impliquées et avec une exigence totale et avec François Basset et avec les autres comédiens, avec Brigitte, avec Jean-Michel, avec Lou Denis, on a travaillé dans ce sens-là. C'était un vrai plaisir.
François, on va revenir un tout petit peu à la musique. Moi, j'aimerais savoir comment tu la travailles. Est-ce que tu as travaillé la musique avant le tournage ou est-ce que tu as attendu de voir les rushs pour poser ta musique sur les images?
Alors moi, c'est un peu particulier parce que je vais faire court, mais j'ai un petit procédé particulier en fait. Quand on me propose une musique de film, évidemment, quand c'est avant le tournage, j'ai un rituel en fait. Je m'enferme avec le scénario. Et je vérifie sur mon planning, avant de lire le scénario, que j'ai 3 jours devant moi que je peux bloquer. Et je ne lis pas le scénario avant, je m'enferme avec le scénario dans ma pièce de composition et je ne m'autorise pas à sortir tant que j'ai pas 3 thèmes. Pourquoi ? Parce que quand on lit un scénario, quand on ferme la dernière page, c'est un peu quand on termine un roman ou quoi, on ressent physiquement quelque chose de l'histoire. Je veux le choper absolument parce que c'est quelque chose que je n'aurais qu'à la première lecture. Quand tu relis la deuxième fois, tu n'as pas le même truc. Donc je travaille sur le scénario, j'écris 3 thèmes. Ces 3 thèmes, après, je les présente aux producteurs, aux réalisateurs, aux équipes. Ils n'aiment pas, etc. Mais en tout cas, ça s'est chopé. Donc là, j'ai pu le faire grâce au fait qu'avec François, on travaille sur... Ça fait plusieurs films qu'on fait ensemble. Donc j'ai été pris au moment du scénario, au moment où le film était encore en état de scénario. Donc j'ai pu faire ça. J'ai envoyé les thèmes à François parce qu'à l'époque, alors en plus un truc spécial sur ce film, c'est que je ne connaissais pas le réalisateur, c'est mon premier film avec lui, et donc c'est jamais évident. Donc on a fait ce travail là, François m'a fait des retours sur les thèmes, j'ai commencé à les retravailler, et puis alors tout ça, ça part, c'est existant pendant le tournage, donc ça fait que le réalisateur peut entendre, peut y réfléchir, éventuellement faire écouter un acteur pour une indication, enfin ça peut servir, et après évidemment Une fois que le film est tourné, je refais tout, je reprends tout, et je refais tout sur l'image, à l'image, comme une musique à l'image.
On va terminer avec Brigitte. Une petite anecdote de tournage.
Une petite anecdote, mais alors que je vais à peine dévoiler. C'est tout à l'heure, François parlait de l'humour dans ce film. Et il y a un comédien, il y a un rôle qui amène quelques notes d'humour à un moment donné. Et il est vrai qu'à la première prise, à chaque fois, il fallait arrêter parce qu'il était trop drôle.
Et là, il faisait rire tout le monde.
C'est le rôle d'un jeune gendarme qui est très débutant et Lou Denis le reprend sans arrêt parce que...
Bizarre, j'aurais parié. J'aurais parié que c'était lui.
Non, mais en fait, à un moment, bon, je ne vais pas dévoiler les choses du film, mais à un moment, il intercepte une des héroïnes pour lui dire ne passez pas, on n'a pas encore fouillé cette partie de la forêt. Et en fait, sans caméra, on a fait une mise en place sans caméra alors que tout le monde partait déjeuner avec Claire Kame et lui. Et il a fait tomber son toki complètement accidentellement. Et en fait, on était tous morts de rire. Et il l'a reproduit, en fait, pour le tournage. En fait, il l'a reproduit à l'identique pour le tournage. C'était presque quelque chose qu'il avait préparé. Mais ça nous paraissait tellement spontané qu'on l'a gardé. Et il l'a très bien fait. Et voilà. Alors, le jeune gendarme est interprété par Étienne Coquel, qui est un jeune comédien très prometteur et qui a été... Il a fait l'unanimité sur le plateau. Vraiment, voilà, il est à suivre.
Voilà, enfin un film qu'il ne faut pas rater si vous voulez voir des secrets de famille enfouis, si vous voulez voir du thriller, de l'enquête, et puis des sœurs se déchirer, eh bien c'est le moment de voir Maman a disparu. Et ça se passe cette semaine sur France 3. Merci beaucoup aux deux François qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci François Ramburu, merci François Stahl.
Ben écoutez, merci à vous de nous avoir accueillis.
Merci pour l'accueil, merci.
Et merci Brigitte Aubry, qu'on a hâte de retrouver également dans notre émission. À très bientôt Brigitte.
Mais je l'espère aussi, à bientôt et merci.
Et tout de suite on se quitte avec la bande-annonce. Maman a disparu cette semaine sur France 3.
Inédit, mardi sur France 3.
Je vous appelle parce que votre maman a disparu.
Elle s'est volatilisée.
Une mère qui disparaît.
Maman.
Une sœur qui réapparaît.
C'est maintenant que tu débarques. Sinon moi aussi ça me fait plaisir de te voir.
J'espère que votre mère a trouvé un abri. Parce que les nuits sont froides par ici.
Si vous savez quelque chose, dites-le nous.
Vous vous restez, elle part.
Non, c'est nous deux ou personne.
Malgré l'absence, les liens du sang ne s'effacent pas.
Il y a plein de trucs que je sais pas sur toi.
Ils se resserrent.
Bienvenue dans la famille.
Claire Kame et Claire Borotra sont sœurs contre tout. Mardi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
Allez, l'événement cette semaine, c'est Prométhée qui débarque sur TF1, une nouvelle série inédite qu'on va découvrir avec un mélange de surnaturel, avec un mélange de fantastique, avec du thriller. Il y a plein de choses différentes que vous allez découvrir dans cette série. Et on a le réalisateur qui est justement avec nous aujourd'hui, Christophe Campos. Bonjour.
Bonjour.
À qui on doit déjà Plan B, qu'on avait adoré avec Julie Debona il y a quelques années. Et donc là, aux manettes de ces 6 épisodes avec Fantine Ardouin, qui est là avec nous, qui est l'héroïne de cette série qui joue Prométhée. Bonjour Fantine.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors comment est né un petit peu ce projet, même si on peut pas en dire trop d'après ce que j'ai compris, parce qu'autrement, on en dit trop sur l'histoire, hein, en gros.
Elle est difficile à pitcher parce que si on pitche vraiment jusqu'au bout, on spoil quoi. Et c'est une série qui est très très surprenante, donc c'est difficile de lâcher des indices. Sans, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une série qui vous embarque en traversant les genres, c'est-à-dire qu'on passe du polar au thriller et très vite on arrive sur du fantastique et du surnaturel. Le point de départ, le nom là, le nom c'est Prométhée, donc Prométhée, ça nous ramène à la mythologie, au dieu, enfin, celui qui volait le feu à Dieu pour l'offrir aux humains. Donc, on sait, voilà, c'est un point de départ.
Alors, les auteurs ont fait en sorte, évidemment, de nous embarquer, de nous surprendre. C'est pour ça qu'on peut pas trop en dire. La seule chose qu'on peut planter un petit peu le décor, c'est que ça commence par une jeune fille qui court nue dans une forêt, qui va se retrouver percutée par une voiture et qui va se retrouver sans égratignure, sans rien, sans blessure. Juste une chose, elle se souvient que d'une seule chose, c'est son prénom, Prométhée. Et c'est là que toute l'histoire, évidemment, va partir, puisque les personnes qui vont l'avoir percutée vont la prendre un peu sous son aile. Et elle va être prise de vision, elle va faire des dessins, enfin, il y a tout plein de choses surnaturelles et qui vont vous surprendre au fur et à mesure que vous allez découvrir déjà ces deux premiers épisodes. Mais Fantine, comment ça s'est passé? Comment t'as été embarquée dans cette aventure, toi déjà, et qu'est-ce qui t'a plu dans cette série Prométhée?
Moi, j'ai été embarquée par un casting déjà, plusieurs castings.
Donc j'ai fait un casting sur Paris et un mois plus tard, je pense, on m'a dit la bonne nouvelle du fait que j'étais prise. Du coup, j'ai pu lire les scénarios que j'ai absolument adorés.
T'as dévoré tout d'un coup ?
Oui, j'ai tout lu d'un coup parce que c'est très addictif. Hein, même si on sait qu'on va la tourner, on est quand même premier lecteur et premier spectateur de la série, quoi. Du coup, ça reste addictif, on a envie de savoir la suite.
C'est bon signe hein, quand c'est comme ça. Généralement, quand un comédien ne peut pas s'empêcher de lire tout jusqu'au bout, c'est-à-dire que le spectateur, normalement, devrait en faire autant, Christophe.
Et moi-même, c'est pareil. Hein, malgré toute la prépa, le tournage, le montage et tout, j'arrive à me détacher et être spectateur complètement, même encore de ma série. Quoi, j'arrive à me laisser embarquer. C'est un peu ma volonté, c'est-à-dire de vous prendre au début et de vous amener jusqu'à la fin. Parce que tu parlais du début de la série avec Fantine qui débarque nue et qui se fait percuter. Bah voilà, on commence par une naissance en fait dans cette série. C'est-à-dire on a une personne qui est nue, qui sort du noir et qui arrive dans la lumière. Voilà, moi je en croisant les genres comme ça, j'espère que on aura la même impression que Fantine en lisant, c'est-à-dire d'être accroché. C'est très addictif quoi. En fait, c'est une série qui est vachement addictive parce que on peut être aussi bien captivé par le polar que par le thriller, que par l'horreur, que par tout ça. Donc normalement, c'est fait pour vous prendre par la main du début, vous emmener jusqu'à la fin et vous surprendre. Voilà.
C'est toi qui dessines Fantine ou pas ?
Alors pas du tout, je suis totalement
doublée.
Oui, je suis doublée. J'ai ma doublure main qui est une très grande dessinatrice, mais moi je suis très très nulle. Heureusement.
C'est impressionnant les dessins qui sont faits. Vous verrez hein, dans la série. Hein, je vous en dis pas plus, mais il y a des dessins qui sont faits. C'est vraiment bluffant.
Oui, ben justement c'est bluffant parce que c'est pas moi qui les ai dessinés. Donc, donc voilà.
Mon petit secret de fabrication. La question que je me suis posée aussi, cette première scène dans les bois, j'espère qu'ils ne l'ont pas fait tourner en décembre-janvier. Hein, parce que généralement, là, on voit cette scène-là qui dure un certain temps à l'écran, qui dure, allez, une minute trente. Mais là, vous avez dû y passer une nuit à la tournée. Donc, je me suis mis à ta place, j'ai dit, mais la pauvre, j'espère pas en plein hiver.
Alors, dans les bois, c'est la femme qui court, c'est pas moi, c'est une doublure. Heureusement, parce que je serais sûrement tombée trois fois. Mais sur la
pense à la doublure quand même. Alors.
Oui, elle a eu beaucoup de courage. Non, moi j'étais sur la route couchée par terre à moitié nue sous la pluie et il faisait très très froid pendant la nuit. J'avoue que j'aurais pu attraper la crève, heureusement j'avais tout le monde pour me faire des câlins chauds avec des serviettes après mais sinon c'était pas facile comme scène.
C'est génial parce qu'on livre des petits secrets comme ça de fabrication en même temps sans trop en dire. Odile Wilmain aussi, il y a plein de personnages qui gravitent hein, autour de Prométhée, évidemment, parce que c'est aussi une série qui va graviter autour de jeunes hein, aussi. Hein.
Bah, ça gravite autour de, en fait, Fantine est le fil conducteur. Hein, on va dire que c'est elle qui traverse les 6 épisodes et c'est elle qui nous accroche, qui nous prend par la main, qui nous emmène. Et autour, oui, il y a, c'est un film assez choral. Hein, on a un casting adulte et un casting adolescent qui l'entoure, mais qui est vraiment assez équilibré en fait, assez équilibré autour de toi, quoi. Mais tout, c'est quand même le personnage central et ça gravite autour, quoi. Donc effectivement, on a eu la chance d'avoir des gens talentueux comme. Odile Wilmain, Thomas Jouannet, Marie-Josée Croze, Camille Lou, pour les adultes et pour les ados, toute la bande que vous allez découvrir. Quoi.
Quelle a été ta scène qui t'a marqué le plus, peut-être, Fantine ?
Alors, il y en a énormément, je pense que je ne pourrais pas en choisir une. Après, il y a certaines scènes qu'on a redécouvertes, que j'ai personnellement redécouvertes sur le tournage en la faisant, notamment celle avec Odile Wilmain. Donc les scènes, il y a certaines scènes justement de psy qu'on a totalement redécouvertes parce qu'elle a amené quelque chose en plus que j'avais pas du tout vu dans le scénario. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué du coup de redécouvrir totalement le personnage d'Odile, comment une scène peut totalement changer de notre idée et de comment ça se passe sur le tournage, quoi.
Oui, parce qu'Odile joue la psy qui, elle, va essayer de comprendre ce qui t'est arrivé et surtout va essayer de déterminer si tu mens ou pas, en gros.
Bah oui, c'est ça. C'est, la police va lui demander, ce qui est normal pour les gens amnésiques, de savoir si jamais je mens ou pas, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'amnésie, tout ça.
Son truc, c'est d'essayer de la reconstruire, puisqu'elle est, elle arrive comme... voilà, elle sait juste qu'elle s'appelle Prométhée. C'est un personnage qui est fragmenté, en fait. Et le rôle d'Odile, ça va être de rassembler toutes ces parties d'elle et éparses, quoi. Voilà.
Une fois qu'elle va être sûre, effectivement, qu'elle ne ment pas.
Voilà, exactement.
Bon, Christophe, en tant que réalisateur, quels ont été les meilleurs moments aussi sur ce tournage ?
Bah, les meilleurs moments, ça a été tout le tournage, quoi. Parce que je trouve qu'être réalisateur, c'est garder une partie d'enfant, quoi, de gamin. Et là, moi, j'ai eu un terrain de jeu extraordinaire, quoi. Mais aussi bien dans des scènes spectaculaires avec des effets spéciaux que dans des scènes d'intimité, comme par exemple les séances de psy, où là, on avait un travail de pur jeu, quoi. Qui était juste du jeu, c'est simple. Il n'y avait pas, en termes de filmage, c'était pas compliqué. Il y a des cadres, il y a des trucs, mais c'était vraiment laissé à place aux acteurs. Et puis il y a eu des moments où c'était mon truc à moi, quoi. Par exemple, de la mettre à poil sous la flotte avec une lumière en contre et tout ça, avec des nacelles, des trucs de fou, genre c'était Hollywood, quoi. Donc voilà, les plaisirs étaient vraiment multiples.
Comment t'as réagi, Fantine, quand t'as vu la première fois les épisodes monter, entre ce que t'as tourné? Est-ce que tu vois au final monter avec le son, la musique, tout ce qui a été ajouté finalement?
Ah mais c'est hyper jouissif. Je suis la première fan de cette série, j'adore, et le fait, c'est toujours étrange en fait de tourner quelque chose, de vivre une expérience avec le personnage, etc., et d'avoir le résultat final qui est parfois totalement différent, parce que entre ce qu'on tourne et le montage, il se passe tellement de choses. Et du coup, de découvrir ça en tant que spectateur, mais en tant aussi que personne qui a vécu ces expériences-là, c'est toujours hyper jouissif. Et moi, j'attendais depuis longtemps de le voir, et sur le grand écran, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé, et j'ai envie de voir la suite, quoi.
Bah oui, parce que alors, c'est ouvert, parce qu'on peut pas trop en dire, mais moi, j'aimerais bien savoir quand même si la fin sera ouverte, et si on aura peut-être l'occasion, si ça fonctionne, et si vous êtes là, chers auditeurs, au rendez-vous, et bien si une saison 2 est possible.
Bah, une saison 2 est tout à fait possible, hein. C'est une fin frustrante. Donc voilà, c'est le genre de fin où ça se termine et on se dit « Ah putain, je peux dire des gros mots ou pas ?»
Tu peux. Et en fait, c'est une fin où on se dit « Ah non, mais ça va pas finir. Non, c'est pas possible. Quand c'est qu'on va avoir la suite ?»
Voilà, exactement. C'est le genre de truc où on reste sur une frustration énorme. On peut l'arrêter comme ça et générer une frustration nationale d'une grande ampleur, ou alors on peut...
On a malgré tout quand même quelques réponses aux questions.
On a des réponses, mais c'est ouvert et c'est prometteur sur une saison 2 qui dépote encore plus, quoi.
Si Prométhée est prometteur, c'est formidable et on va découvrir très vite ça. Moi, je vous encourage en tout cas à découvrir cette série qu'on a pu voir au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle il y a maintenant quelques semaines. Merci Fantine et merci Christophe en tout cas d'avoir été avec nous pour le lancement de cette série. Et la semaine prochaine, c'est Marie-Josée Cros qui sera avec nous. On parlera du personnage de Caroline. Et dans deux semaines, pour le final, c'est Odile qui viendra nous parler de la psy. L'habituée en plus, je crois qu'elle a déjà un petit peu d'expérience en la matière. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
T'es blessé? T'as mal quelque part?
Madame, c'est pas possible qu'elle ait rien.
Prométhée ne nous dit pas tout.
Elle est amnésique, c'est normal.
Il y a tout un tas de raisons de mentir.
Comment t'expliques qu'elle soit sortie indemne de l'accident?
Je veux juste comprendre.
Bientôt, Prométhée. Votre nouvelle création TF1.
Et dans un instant, on parle de meurtre à Pont-Aven avec la productrice Odile McDonald, le réalisateur Stéphane Capès et Alexandre Brasseur. Alors surtout, ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com. Sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je revois le fond, mes souvenirs sont là, je redoute le monde. J'entends comme des sirènes qui se battent entre elles, et puis le bruit les vagues m'emportent et reviennent. Je voulais juste lui parler. Tu restes là. Tu voulais t'en donner.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, c'est les 10 ans de la collection Meurtre qu'on fête cette année sur France 3 et le prochain inédit samedi s'appelle Meurtre à Pont-Aven qui a été produit par notre ami Odile McDonald qui est de retour parmi nous. Bonjour Odile.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous, réalisé deux mains de maître par Stéphane Capès. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être là et un des héros, parce qu'on sait que c'est souvent des binômes, les Meurtras. Et justement, une partie de ce binôme est avec nous, Alexandre Brasseur. Bonjour mon cher Alexandre.
Bonjour, je salue aussi Astrid Rousse et Stéphane Fraisse.
Et il y a du beau monde justement au casting dans ce film. Mais d'abord déjà, pourquoi Pont-Aven, Odile?
Alors Pont-Aven, parce que c'est une histoire de peinture, c'est une histoire de peintre, et donc Pont-Aven s'est imposé pour la raconter.
Il y a toujours des légendes qui sont mêlées évidemment à cette collection, et on va pas y échapper justement, puisque c'est une nouvelle légende qu'on va découvrir dans ce film, Stéphane en quelque sorte.
Sur ce film, là, malheureusement, il n'y a pas trop de légendes. Voilà. C'est peut-être la différence qui se passe par rapport à ce meurtre. Voilà. C'est sur l'histoire de la peinture et c'est basé sur l'histoire des peintres de Pont-Aven. Voilà. C'est peut-être la légende qu'on va raconter dans ce film.
Ah oui, parce que quand même, la légende de Pont-Aven, ça reste la peinture.
La peinture fait partie intégrante de Pont-Aven, puisqu'il y avait l'école de Pont-Aven avec les peintres, qu'il y a encore des musées et qu'il y a des tableaux de Gauguin, je crois, qui sont disséminés à droite à gauche, notamment dans ce musée où là, à côté, nous... dans le centre-ville, là où nous avons tourné.
Alors Alexandre, ça a changé un peu de set, là, justement, se retrouver en Bretagne, justement, à Pont-Aven. Un décor magnifique, là aussi.
Hein. Ah oui, moi je dois dire que c'est un décor qui me touche beaucoup. Mes parents m'avaient emmené à Port-Manec, juste à côté, quand j'étais petit. Et moi, j'étais ravi que ce film arrive, parce que, au-delà du fait que j'avais envie de travailler pour, accessoirement pour le service public, et je suis fan de peinture, donc de pouvoir travailler à Pont-Aven au milieu de toutes ces histoires de peinture, moi, ça m'a enchanté. Et effectivement, ça change des rivages, mais bon, ça reste la mer. Hein.
Alors, Antoine Lemézac fait son retour à Pont-Aven pour mener l'enquête, puisqu'une artiste peintre brûlée vive dans son atelier 20 ans avant ressurgit à l'occasion de deux nouveaux homicides qui sont commis. Et donc il va falloir du renfort au personnage d'Astrid pour venir mener cette enquête. Et avec le médecin, puisque Stéphane Fraisse joue un docteur dans ce meurtre-là, qu'est-ce qui t'a plu en premier, Alexandre, justement, dans ce rôle d'Antoine?
Je pense que dans sa globalité, arrête-moi Stéphane si je me trompe, mais je pense qu'on est très cadré dans ce film. Je trouve qu'on s'est pas laissé aller et il y a une forme d'austérité qu'on cherchait aussi bien dans le personnage que j'interprète qui est un peu sur la sellette. C'est un rôle qui est pas facile parce que je peux pas verser du mauvais côté. Il doit être austère mais pas non plus trop désagréable. Et moi effectivement c'est ce qui m'a plu. C'est un film que je trouve assez challengeant dans l'écriture. Je trouve qu'on a mis des enjeux de par les souhaits de Odile, notre productrice, et les désirs artistiques de Stéphane, notre réalisateur. Il y avait des enjeux et voilà c'est challengeant. On s'est pas laissé déborder et moi ça me plaît toujours de rentrer dans un personnage et pas par le petit côté de la lorgnette mais d'être quand même assez cadré. Je trouve que c'est dans les contraintes qu'on trouve sa liberté.
Alors, il y a évidemment certaines parties du film qui sont tournées à Pont-Aven, mais pas que, puisque la région, on va dire, la grande région autour de Pont-Aven est aussi mise à l'honneur, puisque ça a été tourné un petit peu tout autour de Pont-Aven.
Oui, c'est un film qui est tourné autour de Pont-Aven et sa région, bien sûr, Concarneau, enfin tout ce qu'il y a, l'Aven, voilà. C'est des décors assez, assez somptueux. Et pour revenir à ce que disait Alex tout à l'heure, c'est vrai que c'était un film psychologique, qui est basé vraiment sur la psychologie de tous les personnages, et l'idée c'était de se dire qui est coupable. Et comme, on va pas dire bien sûr qui est le coupable ou qui est la coupable, mais c'était de se dire, potentiellement, toute personne dans le film peut être coupable, soupçonné coupable, voilà. Et c'était ça l'enjeu, c'est-à-dire que la psychologie des personnages se met en avant par rapport à l'action, et c'est un film extrêmement... Donc c'est un huis clos dans un univers large de la région, voilà, c'est ça.
C'est une sorte de Cluedo où on va apprendre même peut-être que le destin de certains personnages sont liés intimement, c'est ce qu'on verra, en tout cas au fur et à mesure de cette histoire. Odile, quand t'as mis les pieds la première fois à Pont-Aven, tu t'es dit quoi? T'as dû être inspiré par tout plein de choses, justement. T'avais envie certainement que Stéphane aille, on va dire, tourner dans plein de décors différents.
Alors effectivement, comme le disait Alexandre, la peinture est très présente, donc c'est extrêmement, extrêmement touchant. Mais après, ce qui m'a immensément plu, c'est la beauté et la force des décors, à Pont-Aven, mais aussi donc à Concarneau, où le commissariat se situe, et puis tout ce bord de mer qui est déchiré, sauvage, et qui allait très bien avec cette histoire, effectivement, de nos personnages qui sont tous mis à mal dans leurs convictions, qui vivent de grands tourments, voilà, et cette côte tourmentée, et même ce temps, on a eu à un moment, j'ose même plus appeler ça une averse, je sais pas comment on appelle ça, mais on s'est vraiment pris le ciel sur la tête, et c'est extraordinaire. Stéphane et les comédiens ont été formidables et ont réussi à tourner la scène, et c'est extraordinaire. Cette tempête, elle rajoute aussi. Donc, la Bretagne est vraiment, et l'histoire se sont épousées parfaitement.
On peut citer Naïma Rodrigue aussi, hein, au casting, j'en profite aussi pour citer Naïma quand même, qui est géniale aussi dans le rôle de Juliette.
Je veux pas parler que des décors, mais il est vrai que bien souvent quand on voit des téléfilms policiers, on s'imagine aujourd'hui, par exemple, les bureaux de flics sont ultra modernes, il y a du néon bleu partout, on est dans quelque chose d'extrêmement avec que des LED. Et je trouve que ce qui m'a bien plu là, c'est qu'on est resté vraiment pour le coup dans l'esprit de la Bretagne. On a tourné dans le port de Concarneau et on a réutilisé, la déco a fait un travail formidable, ils ont réutilisé des lieux d'un marché aux poissons pour refaire un commissariat, mais du coup c'est un peu dans son jus, c'est un peu de guingois, c'est un peu pourri, voilà, on n'est pas dans quelque chose, et en même temps c'est très stylisé parce que c'est esthétiquement joli à regarder en plus quoi. Donc,
c'est vrai, oui, ça c'est clair. On va revenir dans un instant sur la rencontre avec Astrid, évidemment, qui est une jolie découverte de ce film. On va écouter un extrait d'abord. Meurtre à Pont-Aven, c'est samedi sur France 3. Et on revient juste après avec notre équipe.
Bonsoir, madame.
Émile Blot était l'ami de Gauguin, Serrusier, Bernard, Filiger, Moffra, Schouffenecker, Anquetin, Moret, et j'en passe. Ensemble, ils ont incarné l'école de Pont-Aven. Alors bien sûr, ce n'était pas une école avec un maître et des élèves, mais des peintres indépendants qui échangeaient leurs idées. Ils étaient en rébellion contre l'enseignement académique.
Vous êtes bien
Émile
sur le
Blot défendait le droit
Vidal.
De
Merci
tout.
Merci de nous laisser un message.
La couleur, le droit de ne pas copier la nature, mais de l'exalter.
L'art est une
abstraction. Éric répond pas, c'est pas normal.
La
création. T'as rien dit ? Non, il devrait être là depuis longtemps.
Et je suis fier d'exposer ici la période solaire d'Émile Blot, peinte en Polynésie au début du siècle dernier.
Allez, notre spécial Meurtre à Pont-Aven continue et on continue à en parler avec Alexandre Brasseur, Stéphane Capès et Odile McDonald qui sont avec nous pour en parler. Alexandre, cette rencontre avec Astrid, avec lequel tu formes ce binôme d'enquêteurs.
Tout en douceur. Voilà, on se connaissait pas, on s'est retrouvés tous les deux dans la même voiture pour aller à l'hôtel en sortant de notre train. Et ça s'est fait de manière toute délicate, à l'image d'Astrid d'ailleurs. Et on s'est construit, on s'est rencontrés petit à petit, et ça a été un moment très agréable, voilà, vraiment très agréable. Et aussi, je dois dire, une rencontre avec Stéphane Fraisse, qui a été tout autant agréable. C'est quelqu'un qui est extrêmement délicieux, exubérant, mais très attendrissant et très touchant.
On va voir qu'il y a des personnages qui cachent beaucoup de secrets, mais c'est aussi évidemment la recette du succès de cette collection Meurtra qui fait un carton le samedi soir. Et c'est vrai que c'est hyper rassurant de voir une case qui fonctionne aussi bien et de se dire voilà, on va toucher 4, 5 millions de personnes justement avec des décors régionaux, avec des tournages régionaux de cette façon-là. Et non, mais c'est vrai que c'est plaisant de se dire ça quand on fait partie d'une aventure telle que cette collection-là, Stéphane notamment pour la partie réalisation.
Ah, ce qui est clair, c'est que l'avantage de la collection Meurtra, c'est qu'à chaque fois, on se retrouve dans des décors différents, dans des histoires différentes, avec des personnages différents. Et donc, c'est la grande force des Meurtra, voilà, pour parler des Meurtra en général dans la collection. Nous, Meurtra Pont-Aven, c'est un délice de retrouver Alexandre Brasseur, parce que ça faisait longtemps, ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas tourné ensemble. Voilà. Et puis d'avoir trouvé Stéphane Fraisse aussi, parce qu'on avait déjà tourné ensemble il y a 3 ans. Et puis de découvrir Astrid, voilà, Naïma, Rodrigue qui est dans le film, et voilà, et tout le reste de tout le casting qui est assez riche et même très riche. Puis il y a même Michel Voïta qui est avec nous sur ce, qui est un comédien Michel suisse. Voilà, c'est quelqu'un de très bien. Et c'est là où je reviens sur que chaque personnage dans le film, on ne sait pas réellement s'il est coupable ou pas coupable. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, ça, c'est extrêmement important.
Ah oui, c'est vraiment un credo. Bon, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez pu vous régaler de galettes quand même aussi? Parce qu'il y a la peinture, certes, à Pont-Aven, mais il y a aussi quand même de délicieuses galettes, il paraît.
De très bonnes galettes et forcément une référence à un film, Les Galettes de Pont-Aven. Mais bon, là, c'était difficile de faire le pont entre les deux. Mais on a été très, très bien accueillis en Bretagne. On a été, donc, Finistère Sud, merveilleusement accueillis par une partie de l'équipe qui était bretonne, mais aussi par les gens des différents endroits où on a tourné. Voilà, galette ou pas, on a été toujours très, très, très bien accueillis.
Bon, s'il y a un moment à nous raconter, particulier, une scène particulière, Alexandre, ça serait laquelle qui ressortirait en tout cas de ce film?
Je crois que cette scène de pluie dont vous parlez, Odile, tout à l'heure est assez incroyable, parce que au début, comme tous les tournages où ça commence à pleuvoir, tout le monde est un peu poli, passe pour un petit parapluie, et puis on va s'arrêter 2 minutes, je fume une petite cigarette, bon, et puis en fait ça ne s'arrête pas, et non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça s'amplifie, quoi. Et à la fin, c'est bon, beaucoup de dit tourne, on s'en fout, là. Il y a la caméra, on lui met des sacs poubelles. Bah toi brasseur, t'as une capuche, bah t'as qu'à la mettre, mon pote, hein, tu vois. toi Fraise, t'as les pieds mouillés, voilà. Et puis Fraise, il avait les cheveux qui lui tombaient dans les yeux, il a dit à Capas, passe-moi ta casquette, et ça s'est fait comme ça, et on y a passé 8 heures.
et franchement, mais on est en décor naturel et ça passe crème, comme on dirait maintenant.
Ouais, non, ce que j'ai surtout dit, c'est que au départ les costumes étaient un tout petit peu trop parisiens, je trouve. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, tout le monde avec son petit blouson andin, ses petites chaussures, tout était neuf. Et je dis, bah je crois que ça va être bien, mais vous allez peut-être sûrement mettre des parkas, des cotaines, enfin des bottes, des trucs, et c'est ce qu'ils ont fait au final pour avoir vraiment pour qu'on puisse jouer la réalité, voilà. Et c'est vrai que le temps est tellement changeant, et puis c'était tellement beau cet orage qu'il fallait en profiter, quoi.
Plage de Tahiti, tu parles de Tahiti, ouais, toi. Ah ben on est content, merci, hein.
Bon, en tout cas, ben meurtre en Polynésie, tiens, ça te donne des idées, Odile, pour le prochain.
Je crois que ça a déjà été fait. Moi, je ferais bien. Je sais que c'est pas la France, mais moi, je ferais bien un meurtre au Québec.
Ça serait génial, ça.
Meurtre à Montréal.
En fait, c'est un francophonie en plus.
Exactement.
Les projets pour vous trois, pour terminer. Alexandre, évidemment, Demain nous appartient, qui continue, évidemment, sur sa lancée de son succès, où tu retrouves dans Pont-Aven, justement, Neymar Rodrigue, mais vous partagez peu de scènes dans Demain nous appartient, donc ça a été un peu plus l'occasion. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets, à part ça aussi, qui nous attend en 2023?
Essentiellement du théâtre, moi. Mais pour l'instant, c'est en devenir, donc on attend. Voilà, ça part plutôt pas mal.
Génial, merci Alexandre. Stéphane?
Des projets, mais par contre, tant que rien n'est signé, je n'en parle pas. Voilà, je préfère ne pas en parler.
Superstitieux. Odile.
Thriller conjugal, d'après l'œuvre de Douglas Kennedy, qui raconte... la tagline, c'est de dire que couvrir des guerres, c'est rien à côté de la maternité. Et également, une mini-série dans le monde du livre et de l'édition, co-écrite par Eric Metzger, Julien Bisson et la merveilleuse Kauter Adimi.
Voilà, vous êtes bien occupés et c'est génial, comme ça on va vous retrouver très vite dans Chute, on écoute la télé. Merci beaucoup, merci Stéphane, merci Alexandre, merci Odile. Meurtre à Pont-Aven, c'est samedi et c'est à 21h10 sur France 3. Je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup Alain.
Merci beaucoup Alain.
Merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le grand plaisir de recevoir Olivier Vlodarczyk. Il a été primé meilleur documentaire pour Maman Chanteuse. Il sera diffusé d'ailleurs sur France 3. Cette occasion, Olivier sera notre invité. Franck Brett, également Jordan Dehassu et Lizzie Brochéré seront nos invités pour la fiction Comme mon fils, qui sera diffusée sur TF1. Marie-Josée Croce sera également notre invitée pour la suite de Prométhée. Stéphane Plaza sera également notre invité exceptionnel. On parlera du village des endormis avec Stéphane Fraisse notamment, qui sera avec nous, et toute une partie de l'équipe de la fiction. Et puis nous aurons également une page spéciale Marie au premier regard.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com, et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé, et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.